Radio Okapi. Okapi.
Au sommaire de cette édition, le gouvernement congolais annonce l'imminence d'un dialogue avec le M23 à Kampala en Ouganda. Si la majorité présidentielle salue la présence des parlementaires à cette rencontre en qualité d'observateur, l'opposition par contre la trouve inopportune. Le ministre de l'Intérieur déplore la destruction méchante et le pillage des services publics pendant l'occupation de la ville de Goma par le M23. Richard Mouyej-Mongez constate qu'après ces événements, la ville est en proie à l'insécurité. Le site de l'université de Kinshasa menacé par des têtes d'érosion, et ce, en dépit de la présence du collecteur construit par l'OVD sous financement du gouvernement. Madame, Messieurs, bonjour. Radio Okapi émet de nouveau à Kinshasa depuis hier après-midi. Le signal de notre station de radiodiffusion a été brouillé depuis samedi dernier sur décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Motif officiel évoqué par l'organe de régulation des médias en République démocratique du Congo pour justifier sa décision. Le non-dépôt par les responsables de la radio onusienne du cahier de charge. Cela dit, le gouvernement congolais annonce l'ouverture imminente à Kampala en Ouganda d'un dialogue avec le M23. La rencontre va commencer d'ici un ou deux jours, a déclaré hier le ministre de l'Intérieur en visite à Goma, cité par le journal français Le Nouvel Observateur. Nous dialoguerons avec quiconque impliqué dans la situation, y compris le M23, a-t-il assuré. Richard Mouyej-Mongez a indiqué qu'un premier groupe de négociateurs devait quitter Kinshasa ce mardi pour la capitale ougandaise. Un autre doit suivre aujourd'hui mercredi. Nous avons fait en sorte que ce soit une équipe complète composée des animateurs de toutes les institutions du pays, a précisé le ministre Mouyej, indiquant aussi que la société civile, l'Assemblée nationale et le Sénat seraient de la partie. S'agissant justement de la participation des députés à ce rendez-vous, leurs avis divergent. Mimi Ngumba Mulongo est notre permanente au Parlement.
Le principe est déjà acquis, les parlementaires prendront part à ces assises en qualité d'observateurs, c'est-à-dire ils ne prendront pas la parole. À cette approche, la majorité présidentielle ne voit aucun inconvénient. Clément Zao.
Je ne vois pas qu'est-ce que les députés auront à apporter d'autre, si ce n'est ce que nous avions déjà accouché sur papier et transmis au chef de l'État. Notre présence, c'est peut-être un réconfort pour le gouvernement en disant que nous sommes là avec ceux qui nous contrôlent pour éviter qu'il y ait des questions orales avec débat, des interpellations. Nous serons témoins de ces engagements.
Côté opposition, l'on indique que ce genre de rencontre ne répond pas aux attentes du peuple congolais. Par voie de conséquence, les députés comme Franck Diongo ne trouvent pas l'opportunité pour les parlementaires d'y prendre part.
Dans ces dialogues, il faut bien définir l'ordre du jour et que les participants doivent être l'opposition, la société civile, le gouvernement de Kinshasa, les autres groupes armés de l'Est comme de l'Ouest, parce que nous avons besoin d'une solution durable.
Si l'unanimité est difficile à trouver parmi les députés quant à leur présence ou non dans la capitale ougandaise, la population du Kivu en particulier ne réclame que deux choses, la fin définitive de la guerre et le retour effectif de la paix.
Et puis, Goma, un cas d'urgence pour le gouvernement congolais. Déclaration ce mardi après-midi du ministre de l'Intérieur après une tournée effectuée dans cette ville. Richard Mouyej-Mongez dit avoir constaté sur le terrain des dégâts énormes causés par des bandits armés, notamment sur certains édifices publics, pendant les 10 jours d'occupation des rebelles. À cela s'ajoute l'insécurité. À Goma, explication de Bernard Nyangi.
Après sa tournée d'évaluation en ville et à l'aéroport, le constat de cette délégation est que le bureau et la résidence du gouverneur, ainsi que le bureau de l'Agence nationale des renseignements, sont parmi les services publics les plus affectés par le pillage et les destructions méchantes pendant l'occupation de la ville par les M23. Le ministre a aussi déploré, après un briefing avec les responsables des agences humanitaires, le fait que l'insécurité affecte aussi bien les personnes déplacées que les autres habitants de Goma. Il promet de plaider auprès du gouvernement pour outiller la police dans sa mission de sécurisation des populations, mais aussi renforcer la restauration de l'autorité de l'État à Goma. Richard Mouyej.
Le chef de l'État s'est engagé dans la voie de la diplomatie. Nous dialoguerons avec quiconque est impliqué dans cette situation, y compris les M23. Et nous nous accorderons des dispositions pour une paix durable. Notre population a beaucoup souffert, vous avez suivi les humanitaires. Les déplacés qui sont déjà dans des conditions humanitaires très fragiles, constitue à être l'objet de pillages, de viols. Nous ferons tout pour que cette souffrance s'arrête.
Au niveau local, le gouverneur de province, Julien Paloukou, promet d'instaurer un système de renseignement sectoriel via le concours de cadres de base sur des 10 maisons afin de dénicher les condamnés évadés de la prison de Mounzenze. Goma, Bernardin Yangui, Radio Okapi.
Dans l'actualité ce matin, il y a aussi la publication hier mardi à Kinshasa du rapport du RENADOC sur les violations des droits de l'homme commises par le M23 au Nord Kivu. D'après les investigations du réseau national des ONG des droits de l'homme, les rebelles se seraient rendus coupables de multiples assassinats, viols et pillages depuis qu'ils ont occupé la ville de Goma, les territoires de Nyiragongo, Masisi, Lubero et Beni. Selon le RENADOC, il est urgent qu'un dossier judiciaire soit ouvert à l'endroit des responsables du M23. Et par conséquent, d'après cette composante, le M23 n'est pas un interlocuteur valable avec lequel la République démocratique du Congo peut négocier à Kampala, en Ouganda. Fernandez Morola, secrétaire exécutif national du RENADOC, s'explique au micro d'Askenzik Batayero.
Nous avons dénombré 59 cas de violations de toute nature. Il y a eu des assassinats ciblés, il y a eu des viols, il y a eu le pillage même des personnes vulnérables dans les camps des déplacés, les camps des réfugiés, des incursions dans les maisons des particuliers. Ils ont pillé même le patrimoine de l'État du Nord Kivu dans son ensemble. Les gens qui viennent amener la démocratie dans un pays ne peuvent pas se transformer en pillage. C'est inadmissible. Et nous avons fait des recommandations pertinentes au niveau du gouvernement, de la communauté internationale. Et nous avons démontré que le M23 n'existait pas en réalité et qu'il appartenait à notre gouvernement de discuter directement avec les acteurs visibles et invisibles. Parmi les acteurs visibles, il y a le Rwanda et l'Ouganda. Les acteurs invisibles, ce sont les multinationales qui cherchent à occuper, à piller et à exploiter de manière anachronique les richesses nationales. Pour nous, les acteurs du M23 doivent être en prison et nous sommes en train de lancer un appel vivant à la communauté internationale pour que ils fassent tout ce qui est de leur pouvoir pour que tous les principaux acteurs des crimes dans notre pays puissent être poursuivis et jugés.
Notez que le rapport du RENADOC publié hier à Kinshasa couvre la période du 1er juin au 30 novembre dernier. Un autre rapport, c'est celui des experts de l'ONU publié aussi ce mardi. Un rapport qui accable le Rwanda et l'Ouganda quant à leur soutien aux rebelles du M23, selon le document de ce groupe d'experts des Nations Unies pour la République démocratique du Congo, un groupe d'experts dirigé par Steve Egg. Le M23 a bénéficié du renfort direct des troupes rwandaises et d'un appui important de l'armée ougandaise. Il ajoute que des hommes des troupes rwandaises par milliers ont soutenu à l'occasion l'assaut du M23 lors de l'occupation de la ville de Goma le 20 novembre. L'essentiel de ce rapport dans cet élément de reportage de Jacques-Yves Molima.
Selon ce rapport, quand le M23 a commencé son offensive sur Goma, il a bénéficié directement du renfort de l'armée rwandaise à partir de la frontière à Kibumba. Une unité spéciale des forces rwandaises estimée à au moins 1000 militaires, selon toujours ce rapport, sous le commandement du colonel Vincent Gatama, ont renforcé le M23 lors des opérations visant la chute de la ville de Goma. Le 20 novembre dernier, lorsque le FRDC quittait la ville, les troupes rwandaises sont entrées clandestinement dans la ville de Goma à partir de Gisenyi en empruntant des petites ruelles situées entre les deux villes frontalières. À en croire ces rapports, les rebelles du M23 portaient la même tenue militaire de l'armée rwandaise afin de camoufler la présence des militaires rwandais aux côtés des rebelles. Selon toujours ces rapports, les gouvernements rwandais et ougandais ont créé, équipé, entraîné, renforcé et commandé directement la rébellion du M23. Et les rapports de souligner que général James Kabarebe, ministre rwandais de la Défense, et Charles Kanyonga, chef d'état-major rwandais, ont planifié les stratégies et l'attaque. En plus, ils ont continué à donner des ordres au général rwandais Emmanuel Rouvusha, à Makenga, chef militaire du M23, et à Bosco Taganda.
On passe maintenant à Bunia, où les biens des humanitaires pillés et récupérés par l'auditorat militaire garnison de l'Ituri ont été remis ce mardi à la MONUSCO. Selon l'auditeur militaire, les agents du système des Nations Unies victimes des pillages passeront au site de la MONUSCO pour identifier leurs biens. Certaines personnes, notamment des soldats FRDC et des policiers qui ont été surpris avec les biens pillés, sont aux arrêts et leurs dossiers seront transférés au tribunal militaire. Radio Okapi Bunia, Isaac Remoyope.
Parmi les biens remis à la MONUSCO, il y a environ 10 motos, des ordinateurs, des appareils électroménagers, des valises d'habits, des chaises pour ne citer que cela. Dans ces lots, il y avait aussi des jeeps de marque Land Cruiser remises à une ONG internationale. L'auditeur militaire, le major Kumbungoma, indique que d'autres biens seront identifiés par les humanitaires sous la coordination de la MONUSCO. Ensuite, un procès verbal de restitution sera élaboré pour tous les biens récupérés pour être consignés dans les dossiers des personnes appréhendées avec les biens pillés. 9 militaires et policiers soupçonnés d'être impliqués dans les pillages sont déjà aux arrêts et l'instruction de leur dossier est en cours. Selon l'auditeur militaire, les enquêtes se poursuivent pour dénicher d'autres suspects civils ou militaires. Il indique qu'une perquisition sera organisée dans des maisons pour cette fin. Un ultimatum de 4 jours est accordé à la population pour remettre ses biens. Bounia Zakare Moyope, Radio Okapi.
Et pour finir, retournons dans la capitale congolaise où plus de 5 sites de l'université de Kinshasa sont en ce moment menacés par des érosions provoquées en majeure partie par les pluies diluviennes. Ces têtes d'érosion ont déjà endommagé plusieurs endroits. Les cas les plus récents sont les dégâts enregistrés à la maison S, au plateau des professeurs, au pavillon 2 du centre neuropsychopathologique CNPP et au centre de recherche en énergie nucléaire. C'est un reportage de Guilor Longo.
Les spectacles est désolant, la lutte anti-érosive s'annonce dure, affirme Tshibangu Mujanai, intendant général, visiblement préoccupé. Si, du côté de l'université de Kinshasa, la situation n'est pas si grave, à l'école de santé publique par contre, l'inquiétude est palpable. Bien qu'à pas des tortues, l'érosion progresse jusqu'à menacer les grands bâtiments de cet établissement. À quelques mètres de là, le centre neuropsychopathologique n'est pas non plus à l'abri du danger. Un de ses pavillons est même touché par l'érosion. Un autre site menacé, c'est la maison S au plateau des professeurs. Le centre de recherche en énergie nucléaire, quant à lui, reste aussi la cible de ces érosions. Malgré la présence du collecteur construit par l'OVD sous financement du gouvernement, les choses ne s'annoncent difficiles puisque l'un des panneaux du collecteur a déjà été emporté par les eaux des pluies. L'intendant général de l'enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique réclame des moyens en équipement au gouvernement pour faire face à la situation. Des équipements devant permettre à l'intendance générale d'intensifier la lutte anti-érosive.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.
Okapi, Okapi, Okapi.